Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Ce dimanche, nous célébrons le deuxième dimanche de carême. À l'issue de la messe célébrée dans les paroisses, les fidèles du diocèse pourront recevoir une lettre que vous leur avez envoyée, écrite, cette lettre de carême avec ce titre « Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux ». Donc c'est une lettre qui va être distribuée tout ce week-end hein, dans toutes les paroisses et les communautés du diocèse de Tarbes et Lourdes. La première question est toute simple, Monseigneur Mika. Pourquoi cette lettre? Pourquoi le besoin de faire cette lettre qui est dense, qui est très dense hein?
Il y a 9 mois que je suis évêque du diocèse. C'est le temps symbolique d'une naissance, le temps d'une maturation. Et voilà, en parlant avec les collaborateurs du conseil épiscopal, d'un certain nombre de dossiers, de sujets, de questions propres à la vie de notre diocèse, il m'a semblé qu'il pourrait être important de partager à l'ensemble des diocésains ma lecture de ces 9 premiers mois, ma perception un petit peu des choses, de la réalité du diocèse, d'exposer tout simplement un petit peu aussi les questions auxquelles le conseil épiscopal travaille, les défis qui se présentent, sans doute des décisions que nous serons amenés à prendre, et voilà, de faire un petit point d'étape. Avec tout le monde, pour que tout le monde y participe à sa façon, soit par la prière, soit par la coopération plus directe, en réagissant à ceci ou à cela, en faisant des propositions, etc., etc.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un état des lieux de ce que vous avez pu observer? D'ailleurs, à un moment, vous parlez depuis votre observatoire, voilà tout ce que vous avez ressenti, observé suite à des rencontres. Mais, donc il y a cette partie un peu état des lieux, et puis il y a une partie qui ressemble plus à peut-être des orientations ou du moins des souhaits, des objectifs, des soucis que vous portez pour
c'est
le diocèse.
C'est ça, c'est exactement ça. État des lieux, alors ça, l'expression exigerait quelque chose de sans doute plus objectif, plus systématique, plus pesé par des experts de l'analyse et que sais-je. Là, c'est mon ressenti, vraiment, ce que je perçois des réalités du diocèse, avec beaucoup d'humilité parce que je suis loin d'avoir fait le tour et d'avoir tout connaître et d'avoir tout compris. Vraiment, c'est pas ma prétention ni mon approche. Mais donc, plus modestement, un peu ce que je ressens aujourd'hui, 9 mois après, là où j'en suis. Et à partir de là, un certain nombre de défis se présentent de toute façon. Eux, ils n'attendent pas que j'ai fait le tour des questions et que j'ai tout compris pour s'imposer. Et donc, d'aborder ces défis, pas seulement sous l'angle qu'est-ce qu'on fait, qui on met, et qui on trouve et qui on cherche, mais d'essayer de situer cette nécessité qui, de toute façon, à un moment donné, devra avoir une réponse, mais dans une vision un peu plus large, un peu plus profonde aussi, et je me suis essayé à ce regard-là.
Alors vous balayez nombre de sujets, de domaines, alors la mission, la vie des paroisses, des doyennés, le sanctuaire de Lourdes, vous parlez de communication, vous parlez d'immobilier, vous parlez de la lutte contre les abus des prêtres, des diacres, des chantiers diocésains, mais il y a un fil conducteur dans tout cela, c'est l'unité. Et ça c'est quand même important d'en parler aujourd'hui, c'est vraiment le fil conducteur de tout ce que vous nous écrivez dans cette lettre, une lettre dans laquelle, si je puis dire, vous ne mâchez pas vos mots, vous nous parlez avec franchise, vous ne nous prenez pas pour des bénis, vous parlez avec une franchise bienveillante, si on peut dire les choses comme ça.
Merci de le souligner, c'est pas une stratégie, c'est ma manière d'être et de faire, j'espère depuis toujours. L'unité est quelque chose qui m'obsède depuis toujours, en effet. Depuis que je suis prêtre, je me souviens avoir repéré dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais cette phrase de la prière dite sacerdotale de Jésus, qu'il soit un afin que le monde croit. Et je mentionne, je fais référence à ce passage dans la lettre en question, qu'il soit un afin que le monde croit. Ça m'a beaucoup impressionné, toujours, cette phrase-là, cette demande de Jésus, comme si la foi du monde dépendait de l'unité visible des disciples du Christ. C'est Saint Jean-Paul II qui avait produit un texte sur précisément l'écuménisme, sur l'unité de l'Église, qu'il intitulait « Qu'il soit un ». Ut unum sint. Ce texte qui introduit la réflexion du pape sur l'écuménisme est un texte tout à fait important. Et voilà, cette citation de l'évangile de Jean, moi, me touche beaucoup. La foi du monde dépend de l'unité visible des disciples. On aura beau développer les stratégies les plus fines, les plus dynamiques, être missionnaire, mettre en place des tas d'initiatives, la division des chrétiens est un contre-témoignage qui vient tout saborder, mettre à plat, voilà, et réduire à néant tous ces efforts missionnaires. C'est l'unité qui témoigne du Christ et de l'Évangile, l'unité des disciples. L'unité qui n'est pas une fusion où tout le monde devient un, c'est-à-dire devient le même. Mmh. C'est pas ça l'unité. C'est l'unité du corps dont parle saint Paul. C'est pas. Je me souviens au tout début de l'écuménisme précisément. Tout le monde était pour retrouver l'unité de l'Église, mais quand on demandait à chacun comment il imaginait cette unité retrouvée, plus ou moins tout le monde imaginait l'unité comme étant le fait que les autres avaient compris que c'est moi qui avais raison et qu'ils redevenaient, ils décidaient de redevenir comme moi, et à ce moment-là on était de nouveau réunis. Évidemment ça marche pas, comme tout le monde raisonne de la même façon, ça va pas. Eh bien l'unité dans l'Église c'est la même chose. Tout le monde est pour, à condition que les autres comprennent que c'est moi qui ai raison et deviennent comme je suis moi. Ben, c'est pas ça non plus que Dieu veut et c'est pas ça que moi je veux servir non plus. L'unité que je veux servir, c'est l'unité d'un corps où l'œil n'est pas l'oreille, le pied n'est pas la main, mais où tous sont nécessaires pour que le corps soit un beau corps. Et c'est cette unité-là pour laquelle le Christ prie avant de mourir, c'est un testament qu'il nous livre, et c'est cette unité qui témoigne de l'Évangile, du Christ, et donc source de foi.
C'est pour ça qu'à un moment vous parlez des différents styles qui existent dans l'Église, y compris dans notre Église diocésaine, et qui n'empêche pas, qui ne devrait pas empêcher précisément l'unité.
Ben justement, c'est un défi, comme je l'écris, hein, nous sommes un diocèse de l'Église de France, et en France, les styles sont nombreux, variés, et existent aussi dans le diocèse. Alors, comme je le souligne, Dieu merci, c'est pas source de conflits, de tensions, et comme ça peut l'être ailleurs. Bon, on est dans le sud-ouest, et les choses sont plus sympas, plus détendues, mais malgré tout, on voit bien que le cœur n'y est pas quand même. C'est plus une cohabitation pacifique, pourvu qu'on n'ait pas trop à se rencontrer et à faire des choses ensemble et à décider ensemble de ceci ou de cela. Ben, c'est pas ça l'unité du corps voulue par le Christ, et c'est pas ça que moi je souhaite servir vraiment. Il faut que chaque membre du corps se réjouisse de l'existence de l'autre membre différent, non seulement tolère son existence parce que voilà, c'est comme ça, il y a la place pour tout le monde, mais réellement veuille cette différence, étant convaincu que personne n'épuise à soi seul la richesse du mystère de Dieu, quoi, et qu'il faut plusieurs facettes pour pouvoir approcher les choses de manière plus juste et plus complète, et que donc tout le monde est nécessaire. Voilà.
Alors on comprend aussi à la lecture de votre lettre que les défis ne manquent pas. Les défis, les chantiers, les projets, que ce soit au sanctuaire de Lourdes, dans l'enseignement catholique, dans les doyennés, dans les paroisses. Vous ne nous écrivez pas pour nous dire que les choses sont simples, sont faciles ou qu'elles le seront. On comprend que les choses sont difficiles parfois, qu'il y a des défis, des obstacles, mais ça n'est pas insurmontable.
Alors, ça n'est pas insurmontable, je l'espère, en tout cas je le crois. Et en tout cas, la solution, c'est pas moi seul qui vais la trouver, c'est pas moi et le conseil épiscopal qui allons la trouver. Ça s'inscrit dans ce que le synode finalement en cours nous rappelle à l'intelligence de la foi et de l'Église, de l'ensemble du peuple de Dieu. C'est que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui doit se saisir de la mission que le Christ à confier aux 12 et à l'Église, et c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui doit aborder les questions, les défis que pose aujourd'hui la vie de l'Église, l'accompagnement, le soutien de la vie des fidèles du Christ, et en même temps le soutien aussi de leur engagement à témoigner du Christ et de l'Évangile, à être missionnaire. Alors ça passe par la catéchèse des enfants, ça passe par une église ouverte, ça passe par une communauté chrétienne qui a un peu d'allure et qui fait envie, ça passe par quantité de choses, mais cette question, elle concerne l'ensemble du peuple de Dieu, et face aux défis identifiés et rappelés, et je m'emploie à cela dans cette lettre, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui devra trouver les bonnes réponses à apporter.
Alors ce peuple de Dieu auquel vous écrivez, évidemment, est invité à lire cette lettre distribuée dans toutes les paroisses donc ce week-end. Et puis à la fin de votre lettre, il y a un petit questionnaire. Alors peut-être on peut en dire un mot. Vous invitez aussi les diocésains à se rencontrer pour échanger sur cette lettre et puis pour vous faire part de leur réaction. Ça, c'est quand même important. Vous attendez des réponses, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est très 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 libre, hein, mais puisque le 20 mai prochain, il y aura une journée diocésaine en vue de la création d'un futur conseil diocésain de pastoral, ce sera peut-être l'occasion dans les échanges qui auront lieu ce jour-là, de pouvoir avoir mûri à partir de la lettre un certain nombre de réflexions et qui pourront venir enrichir ce que nous dirons ce jour-là, non seulement sur le mode affectif, j'aime pas, j'ai peur, vraiment, j'ai la nostalgie de ceci, ou j'espère que l'Église comprendra enfin que, etc. Pas sur ce mode-là, simplement affectif, une approche comme ça, où là, forcément, c'est difficile de dialoguer, chacun a son ressenti, bon, mais quelque chose qui aura pu être confronté avec d'autres et approfondi dans une réflexion, et donc sera plus constructif et pertinent le 20 mai, par exemple.
En tous les cas, cette lettre de carême, revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, c'est une lettre qui s'adresse vraiment à chacun des chrétiens du diocèse de Tarbes et Lourdes, quel que soit son style, puisque c'est le mot que vous employez dans votre lettre.
Quel que soit son style, et j'ai envie de dire son état de vie, c'est à chaque que baptiser des prêtres aux fidèles, en passant par les consacrés, hommes, femmes, etc. C'est l'ensemble du peuple de Dieu, dans tous ses états de vie, qui est concerné, qui doit lire cette lettre, me semble-t-il. En tout cas, c'est à cet ensemble du peuple de Dieu que j'écris. J'y parle vocation, j'y parle prêtre, j'y parle, etc. Pour que chacun s'approprie un petit peu cette réflexion. Et puis, le but, c'est d'essayer de nous façonner une âme commune pour que l'objectif à atteindre soit à peu près le même pour tous, pour éviter des malentendus trop trop profonds, et ensuite le Seigneur nous inspirera les bons chemins pour l'atteindre.
Cette lettre, vous la terminez par une prière, peut-être que vous pouvez nous la lire déjà aujourd'hui dans cette interview.
Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler tes enfants dispersés et constituer un peuple uni dans l'Esprit Saint, toi qui nous as engendrés à la vie nouvelle de ton royaume, à la prière de Sainte Bernadette et des saints de notre diocèse, veille sur ton Église en chemin sur cette terre de Bigorre. Fais-la grandir dans la fidélité au Christ pour qu'elle rayonne de la lumière de l'Évangile. Renouvelle en chacun de nous la foi, l'espérance et la charité. Enlève de nos cœurs les obstacles à la communion et à la mission. Ouvre-nous à ton Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Donne à ton Église les serviteurs nécessaires à sa mission, prêtres, diacres, ministres laïcs, fidèles engagés. Renouvelle au milieu de nous le charisme de la vie religieuse. Ouvre le cœur des jeunes aux appels que tu leur adresses. Que notre Église diocésaine soit unie, fraternelle avec tous, attentive à toutes les pauvretés matérielles, morales et spirituelles, vivant et annonçant la vérité de l'Évangile, pour que le monde croie, aime et espère en toi. Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, porte notre prière et soutiens notre mission. Amen.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. On vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel entretien.
Merci, bonne semaine à tous.